Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi
Ainsi soit-il.
soit-il.
Chantez au Seigneur un cantique nouveau, car il a opéré des prodiges. Mes très chers frères, qui dira les hauts faits de notre Dieu? Qui songe à faire éclater son allégresse pour le salut qu'il a opéré et dont il nous a, par pure gratuité, rendus participants en son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur? Ce divin médecin est venu guérir notre hydropisie et nous donner la grâce, c'est-à-dire la santé de l'âme, afin que nous le servions dans la gratitude et dans la joie. Nous avons plusieurs choses à voir ici aujourd'hui, en ce 16e dimanche après la Pentecôte, avec l'aide du Saint-Esprit, spécialement à partir du texte de l'Évangile. Nous avons à voir premièrement que l'hydropisie est une image de l'état de l'homme déchu. Le souverain remède, et nous verrons quel est le souverain remède à l'orgueil, et nous verrons comment notre Seigneur Jésus-Christ nous le procure. Et nous verrons aussi pourquoi, eh bien, nous le redoutons, ce souverain remède à l'orgueil. En deuxième lieu, nous verrons en quelques mots la doctrine de l'humilité telle que notre Seigneur nous l'enseigne. Nous verrons sa définition pratique. Elle est, nous dirons les auteurs, elle est entre deux extrêmes. Et troisièmement, nous terminerons en voyant certains inconvénients de l'orgueil. Nous verrons quel doit être l'état d'esprit habituel du chrétien. Et nous verrons aussi que l'humilité, comme notre nature restaurée par la grâce, que l'humilité est comme une nature humaine, et comme la nature humaine restaurée par la grâce, et qu'elle est facteur de puissance et de force dans le Seigneur. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. En ce temps-là, Jésus entra un jour de sabbat dans la maison d'un des principaux pharisiens pour y prendre son repas, et ceux-ci l'observaient. Or, il y avait là devant lui un homme hydropique. Et Jésus, prenant la parole, dit au docteur de la loi et aux pharisiens, est-il permis de guérir le jour du sabbat? Mais ils gardèrent le silence. Alors, prenant cet homme par la main, il le guérit et le renvoya. Mes très chers frères, c'est un lieu commun que l'on trouve dans tous les commentateurs de cet évangile que l'hydropisie est une image, cet homme hydropique et son hydropisie sont une image de ce qu'est l'homme tel que la nature le fait depuis la chute. L'hydropisie est une maladie par laquelle l'homme devient enflé d'eau dans tout son corps. Il se déforme et souffre pour deux raisons, par le poids de sa chair qui l'alourdit, mais aussi par le regard des hommes aux yeux desquels il est devenu difforme et laid. Ce n'est pas une maladie cachée, c'est une maladie qui est visible, dont les effets sont visibles. L'homme grossit démesurément, il est plein d'eau, et il est pénible à voir, en tout cas pour les yeux, disons, qui ne sont pas charitables. Cette hydropisie, qui est une enflure, est l'image de l'effet du péché originel, nous disent les auteurs. Ils parlent de l'enflure de l'orgueil. Et effectivement, même quand on parle d'une façon courante, on dit il est enflé d'orgueil, enfin peut-être pas les gens de notre temps, mais enfin en tout cas c'est une expression commune que de dire il est enflé d'orgueil. Nous connaissons tous cette fable de la fontaine, de la grenouille qui voulait se faire plus grosse qu'un bœuf, et qui pour cela s'est enflé, enflé, enflé jusqu'à exploser. Donc il se trouve que l'hydropisie est l'image de l'enflure de l'orgueil. Cette enflure nous rend plein de nous-mêmes, je dis quelques lieux communs avant d'entrer dans le vif du sujet, et elle nous rend difforme et laid aux yeux, sinon de notre prochain, aux yeux duquel nous savons parfois et même assez souvent déguiser notre orgueil, mais surtout aux yeux de Dieu, notre Créateur. L'homme est difforme aux yeux de son Créateur, et les auteurs nous disent que cette guérison, qui n'a même pas été sollicitée par cet homme hydropique qui était en présence de notre Seigneur, cette guérison a été l'effet de la sollicitude de la miséricorde divine. Dans certains cas, ou dans bien des cas, eh bien, notre Seigneur n'a qu'à nous regarder pour nous voir combien nous sommes difformes, combien nous sommes souffrants, combien nous sommes déformés à ses yeux, puisqu'il ne nous veut pas tels que nous sommes actuellement, pour qu'il nous touche. Parfois, nous avons à lui demander, comme les lépreux de la dernière fois qui criaient à notre Seigneur, Seigneur, guérissez-nous, ayez pitié de nous. Et puis des fois, il lui suffit de regarder un homme dans sa difformité pour le guérir. La volonté de Dieu ne se commande pas, il fait toutes choses bonnes en son temps. Le remède de l'orgueil, c'est l'homme donc est orgueilleux, il est malade. Le remède à l'orgueil, c'est l'humilité du Christ, qui peut être envisagée, nous disent les commentateurs, de deux façons, et simultanément. Premièrement, le Christ s'est humilié d'une façon qu'il nous sera toujours impossible d'imiter exactement, puisque de Dieu qu'il était, et toujours en restant Dieu, il s'est fait homme. Et contrairement à ce que disent divers auteurs, modernistes ou pas, notre Seigneur ne s'est pas fait homme pour expérimenter la beauté et la convenance de la nature humaine. Il s'est, nous dit saint Paul, il s'est anéanti lui-même, prenant la forme de l'homme, il s'est anéanti jusqu'à revêtir la forme d'un serviteur. Donc il se trouve que notre Seigneur s'est anéanti d'une façon inimitable, puisque étant Dieu, étant le Créateur, il est devenu une créature. Il est vrai Dieu et vrai homme, c'est le mystère de la divine humanité du Messie. L'humilité du Christ consiste donc, premièrement, dans son anéantissement. Il s'est humilié jusqu'à prendre la forme d'un serviteur. Ensuite, il s'est humilié volontairement aussi, et spécialement tout au long de sa vie, disons d'une certaine manière, mais spécialement lorsqu'il a accepté la crucifixion, puisque la crucifixion n'est pas un genre de mort comme les autres, c'est un genre de mort ignominieuse. C'est pour cela que nous prions dans les prières par la mort ignominieuse de notre Seigneur. Notre Seigneur s'est humilié volontairement, en prenant la forme humaine, en prenant la nature humaine, et il s'est humilié, lui qui était Dieu, et il s'est anéanti, il s'est humilié volontairement en se laissant crucifier pour notre rédemption. Il se trouve donc que, mes très chers frères, le remède de l'orgueil, disons-nous, c'est l'humilité du Christ, cette humilité, à la fois inimitable et imitable, eh bien, nous guérit de cette enflure de l'hydropisie. Et c'est pour cela que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ voit cet homme et qu'il le guérit, il y a quelque chose en réalité de beaucoup plus terrifiant, si l'on peut dire, enfin du point de vue du vieil homme, que dans l'histoire des 10 lépreux. Parce que après tout, les 10 lépreux se sont approchés, plus ou moins de notre Seigneur, l'ont supplié, ont été guéris, et il y en a 9 qui ont complètement oublié de venir lui rendre grâce. Tandis que, pourquoi? Parce qu'ils l'ont demandé. C'est très bien. Il y en a un qui est venu et le Seigneur l'a loué. Maintenant, il se trouve que lorsque Dieu décide de guérir un homme de son hydropisie, il décide non pas simplement de lui enlever un aspect mauvais qu'il avait, mais de le guérir entièrement. Et il le guérit en lui appliquant les mérites de son humilité, humilité en tant que Dieu et humilité en tant qu'homme, anéantissement et humiliation volontaire. De telle sorte que, vous voyez, il y a toujours quelque chose, lorsque nous parlons de la doctrine de l'humilité, il y a toujours quelque chose qui nous fait frémir, il y a toujours quelque chose qui nous rend en quelque sorte réticents, parce qu'il nous semble, à juste titre, mais vous allez voir, depuis les yeux de la chair, il nous semble que la doctrine de l'humilité est peut-être la chose la plus terrible qui puisse exister dans le corpus des doctrines chrétiennes. Nous avons toutes sortes de doctrines qui, d'une certaine manière, ne nous engagent pas à grand-chose. La doctrine de la très sainte Trinité, de la divine humilité du Messie, sont des choses fondamentales, sans lesquelles des doctrines fondamentales sans lesquelles nous ne pouvons pas être sauvés, selon le symbole de saint Athanase. Mais il se trouve que, d'une certaine manière, ces choses sont vraies, même si nous n'y croyons pas. Tandis que la doctrine de l'humilité est une doctrine pratique. Ce n'est pas une doctrine qu'il faut croire. Bien sûr, il faut croire en général ce que nous enseigne l'Église, mais il faut surtout le pratiquer. Rien ne sert à quelqu'un de savoir que pour être chrétien, il faut être humble s'il n'est pas humble. Maintenant, être humble, ce n'est pas simplement être un peu moins orgueilleux, ce n'est pas simplement dissimuler son orgueil. Ça, c'est des formes d'orgueil cachées, voilées, masquées. Pour être humble, il faut que notre Seigneur nous applique l'anéantissement d'un Dieu qui s'est fait homme, et l'humiliation volontaire d'un innocent qui a accepté le genre de mort le plus cruel et le plus ignominieux. Le remède à l'orgueil, c'est donc, disons-nous, l'humilité du Christ. Et cette humilité nous est appliquée, mais elle nous est appliquée d'une façon d'autant plus douloureuse, de telle sorte que désormais nous regardons cet hydropique qui a été guéri sans rien demander, comme quelqu'un qui était, disons, si l'on peut dire, du point de vue de la chair, bien sûr, dans une situation finalement moins confortable que celle des lépreux. Après tout, les lépreux avaient le choix de ne pas revenir et de ne pas dire merci. Tandis que l'homme qui a été guéri, que Dieu a voulu guérir de son hydropisie, il a été renvoyé saint, comme le chrétien est renvoyé, si l'on peut dire, par Dieu hors du monde, c'est-à-dire dans l'Église, dans le royaume de Dieu, nous y viendrons dans un instant, saint, S-A-I-N, et puis avec un T aussi. Si la grâce de Dieu ne nous prévient pas, et ne nous accompagne pas, ne nous suit pas, ce mystère de la doctrine de l'humilité est fermé aux yeux des orgueilleux. On sait ce que les orgueilleux disent en général, on dit ou disent en général de la doctrine chrétienne et surtout de la pratique chrétienne de l'humilité. Ils s'en moquent, c'est-à-dire qu'ils se moquent d'elle, ils disent toutes sortes de choses qui semblent accuser le christianisme de rabaisser l'homme. Nous n'allons pas dire qu'ils se trompent, nous disons parce que d'une certaine manière, il n'y a jamais d'erreur absolue. Lorsqu'un Nietzsche dit que le christianisme est une religion d'esclaves, d'une certaine manière, saint Paul ne dit pas autre chose. Mais la seule chose, la liturgie nous dit que servir Dieu, c'est-à-dire être esclave de Dieu, c'est régner. Chose qu'un orgueilleux, comme ce malheureux homme qui est mort fou, est incapable de comprendre. Si la grâce de Dieu ne nous prévient pas et ne nous suit pas, ce mystère reste caché à nos yeux orgueilleux. Et c'est pour cela que dans l'oraison que nous avons prié tout à l'heure, il est dit ceci, que votre grâce, Seigneur, nous prévienne et nous accompagne toujours, et qu'elle nous donne de nous appliquer sans cesse à la pratique du bien. Il y a donc ici un mystère caché aux yeux de l'orgueilleux. Tout dans le christianisme est caché aux yeux des orgueilleux, mais spécialement le mystère de l'humilité. Parce qu'il s'agit du mystère du salut en réalité. L'anéantissement et la rédemption par la croix, si nous voulons être sauvés, nous devons être guéris de notre hydropisie, de l'enflure de notre orgueil, par l'anéantissement et par l'humiliation volontaire, c'est-à-dire par l'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a donc, nous le disions, une appréhension chez le chrétien à la lecture ou à l'écoute de cet évangile. Très paradoxalement, mais est-ce vraiment un paradoxe? En réalité, c'est un piège du démon. Très paradoxalement, il semble qu'aujourd'hui, le chrétien doit plus que jamais faire l'économie de la doctrine de l'humilité. Parce que la modernité, avec toutes ses horreurs, semble nous obliger à développer ce que la théologie appelle les effets du péché originel, mais ce que nous appelons, nous, finalement, des bonnes armes pour combattre cette même modernité. Elle veut nous soumettre. Il faut que nous soyons pleins d'une fierté légitime. Elle veut détruire notre patrie, ce qui est tout à fait vrai, et il faut que nous soyons orgueilleux d'être ce que nous sommes. Elle veut transformer l'humanité, il faut être fier d'être un homme. Donc, vous voyez, on dirait que le christianisme, sous un certain rapport, ne fournit pas en modernité, nous en avons déjà parlé précédemment, mais ne fournit pas en modernité des armes adéquates pour combattre la modernité. Or, le grand problème, c'est que ce n'est pas que le christianisme est comme un arsenal mal muni, mais c'est que nous nous trompons. Vous savez très bien, c'est un lieu commun que tout le monde, c'est une chose commune que tout le monde a expérimenté déjà une fois dans sa vie, c'est que si nous cherchons quelque chose, par exemple, si nous cherchons un outil dans un atelier, et que nous n'avons pas en tête la forme qu'a cet outil, nous allons passer devant sans le voir, même si nous le voyons. Lorsque nous cherchons quelque chose et que nous avons de cette chose une idée autre que ce qu'elle est, nous ne la voyons pas la plupart du temps. C'est pour ça que bien souvent, faisons cette expérience étrange de voir la chose sans la voir. Eh bien, bien souvent, dans notre vie chrétienne, c'est la même chose. Nous cherchons dans le catéchisme, dans l'écriture, dans la liturgie, dans les oraisons, nous cherchons ces armes dont nous avons besoin pour combattre la modernité, et Dieu sait si la modernité, qui est une forme en quelque sorte doublée ou triplée du monde mondain, est notre ennemi, et si nous sommes aussi les siens. Ce n'est pas ça la question. Mais il se trouve que nous cherchons partout des armes pour la combattre, et ces armes nous sommes quelque peu dépités parce que nous ne les trouvons pas. Nous ne les trouvons pas dans le christianisme. C'est pour cela que pour être un vrai chrétien à notre époque, il semble qu'il faille quand même puiser un petit peu dans les arsenaux, des autres, même si les autres ne sont pas chrétiens, dans l'arsenal donc de la philosophie du volontarisme, dans l'arsenal du néopaganisme, dans l'arsenal du nationalisme, etc. Et de toutes sortes de choses, de telle sorte que nous puissions enfin avoir des armes qui nous permettent, quoi donc, eh bien, de défendre le christianisme sans lequel, eh bien, le monde irait très mal et sans lequel la France irait mal, puisque le christianisme est essentiellement le système immunitaire de la France, comme chacun sait. Donc, voyez, mes très chers frères, quelle étrange bataille que la nôtre, qui nous y jetons, en ayant des armes qui ne correspondent pas à ni à ce que au combat qui doit être mené, ni à ce que Dieu veut nous demande de combattre. La modernité, c'est-à-dire le monde, mais d'une façon redoublée, le monde, la modernité en particulier, puisque nous y vivons, doivent être combattus avec les armes que nous donne l'Église et que nous fournit le Christ. Et l'arme que l'Église veut que nous acquérions aujourd'hui, c'est l'humilité. L'humilité est le remède à l'orgueil. Ça veut dire que de même que le monde mondain est fondé sur la triple concupiscence, et jaillit même de la triple concupiscence, qui est une triple manifestation de l'orgueil finalement, de même nous devons comprendre que nous ne pouvons triompher du monde que par l'humilité. L'humilité qui va de pair avec la foi. Et la charité, bien sûr, l'espérance, bien entendu, mais nous ne pouvons pas tout développer. L'humilité. Si nous combattons le monde avec les armes de la mondanité, si nous combattons la modernité avec les armes de la modernité, semble-t-il, si nous combattons le mal avec les armes de ceux qui méprisent Dieu, ce n'est pas tellement que nous allons perdre, puisque on pourrait dire, mais attendez, vous êtes défaitiste. Non, je vais le dire en amont, c'est que nous n'allons pas être bénis par Dieu. C'est que Dieu va tourner sa face contre nous. Nous allons être comme les Hébreux, nos pères dans le désert, lorsque, après avoir refusé d'entrer dans la terre de Canaan, sous prétexte qu'il y avait des géants, sous prétexte que c'était trop difficile, et lorsque Moïse leur a dit de la part de Dieu que toutes ces générations seraient privées d'entrer dans la terre de Canaan et qu'ils attendraient encore 40 ans avant d'entrer, tout d'un coup, ils ont été très motivés pour y aller. Ils se sont bougés, ils se sont organisés en armée, ils y sont allés, le Seigneur n'était pas avec eux, ils ont été battus à plate couture. Pourquoi ? Et sommes-nous dans une situation, en tant que catholiques, dans une situation où il nous semble que nous sommes condamnés à une stérilité et une impuissance absolue et radicale? Parce que nous, non pas parce que nos ennemis sont méchants, non pas parce que les troupes ne sont pas assez motivées, pas assez formées, pas assez... Non. Nous utilisons trop peu, ou nous n'utilisons pas du tout, les armes de l'arsenal qui ne change pas, c'est-à-dire l'arsenal de Dieu. Et la première de ces armes, c'est l'humilité. Car, nous dit les textes d'aujourd'hui, le Seigneur a rebâti Sion et il sera manifesté dans sa gloire. Ce n'est pas par hasard que ce texte dans le verset alléluiatique est ici. Le Seigneur, car le Seigneur a rebâti Sion et il sera manifesté dans sa gloire. Il se trouve que nous savons que Dieu rebâtira Sion. Or, il est une façon d'escompter le triomphe divin qui s'oppose à notre participation à la gloire divine, comme châtiment, et non pas comme fait recherché. C'est-à-dire que, bien sûr que tout le monde sait que Dieu triomphera à la fin. Bien sûr, nous le savons. Mais ce qu'il y a, c'est que dès maintenant, nous essayons de tirer parti de cette gloire, de telle sorte que, en plaçant nos pions, si j'ose dire, nous puissions être aux premières loges lorsque la gloire de Dieu se manifestera. Voyez-vous, mes très chers frères, la guérison de l'hydropique était une figure dont notre Seigneur Jésus-Christ donne la doctrine sous la forme d'une parabole. Nous voulons triompher avec Dieu, mais nous ne voulons pas utiliser les armes de Dieu. Nous savons que Dieu triomphera, et nous voulons avoir notre part du triomphe de Dieu. Comment notre Seigneur, qui sait tout et qui a tout prévu, nous enseigne-t-il sur cette sorte de perversion de l'esprit qui est malheureusement le fait des bons chrétiens. Et quand je dis bons chrétiens, je mets des guillemets. Écoutez ce que dit notre Seigneur dans la deuxième partie de cet évangile. Quand vous serez invités à des noces, ne vous mettez pas à la première place, de peur qu'il ne se trouve parmi les invités une personne plus considérable que vous, et que celui qui vous aura invité, vous et lui, ne vienne vous dire « cédez la place à celui-ci », et qu'alors vous n'ayez la honte d'être mis à la dernière place. Combien de royalistes se battent et mettent toute leur force dans les grands combats de la politique, c'est-à-dire le collage d'affichettes, le tractage, etc., en se disant que lorsque le roi reviendra, eh bien, d'une certaine manière, ils seront de la garde prétorienne. Voyez, combien de gens qui s'activent autour des héritiers légitimes de la couronne, qui essayent de se faire bien voir quand le roi est là en train de serrer la main au maire de gauche pour avoir l'autorisation d'utiliser des monuments publics pour faire ses petites cérémonies, surtout quand on prétend être roi et qu'on ne l'est pas, en se disant qu'ils seront probablement, sinon les ministres, du moins les courtisans les plus rapprochés de ce roi lorsque la République, enfin pardon, quand nous, le peuple, lui aura rendu son trône, lorsque la démocratie aura été couronnée. Voyez, combien de conclavistes s'imaginent que parce qu'ils font des blogs en faveur du pape à venir, ils vont être probablement camériers secrets ou quelques conseillers éminence grise de sa sainteté lorsqu'elle sera sur le trône. Voyez, combien de personnes qui aujourd'hui mènent le combat de la foi, comme on dit, qui s'imagine que lorsque l'Église en ordre, comme on dit toujours, sera rétablie, eh bien, ils occuperont des places, vous voyez, combien de prêtres obscurs qui combattent tout le monde s'imaginent que lorsque le vrai pape récupérera sa matérialité, eh bien, il deviendra probablement cardinal. Je ne sais pas, ce sont des choses qui peuvent s'imaginer. Vous voyez, notre Seigneur nous dit, quand vous serez invités à des noces, ne vous mettez pas à la première place. Vous allez dire, mais nous ne mettons pas à la première place. Pour l'instant, nous posons les fondements, nous sommes en train de combattre. Oui, oui, bien sûr. Bien entendu, on l'a vu. Voyez-vous, mes très chers frères, notre Seigneur nous dit que si nous nous plaçons nous-mêmes, ne serait-ce qu'en nous mettant dans une situation où nous imaginons rationnellement que notre fidélité dans l'obscurité nous donnera part à la gloire au moment venu, notre Seigneur nous dit que nous nous mettons à la première place et il nous dit « ne vous mettez pas à la première place, de peur qu'il ne se trouve parmi les invités une personne plus considérable ». C'est pour cela que si par malheur il y avait des restaurations de ce genre-là, je ne parle pas de la vraie restauration, mais des restaurations de ce genre-là, on verrait, après avoir trucidé tous les gauchistes, on verrait ces gens s'entretuer les uns les autres, ni plus ni moins que les révolutionnaires, à leur époque. Pourquoi? Parce qu'à mesure qu'ils découvriraient, ils découvriront qu'il y a des gens plus qualifiés qu'eux et plus dignes qu'eux, eh bien, ils ne demanderont qu'à les tuer eux-mêmes. Voyez, et peut-être de leurs propres mains, toujours pour les meilleures raisons, bien entendu. Lorsque vous serez invité à des noces, ne vous mettez pas à la première place. Voilà quelque chose qui est vrai tout le temps et toujours et partout, en toutes circonstances. Voyez-vous, la nature corrompue nous porte à nous préférer nous-mêmes et à nous approprier ce qu'il y a de meilleur. Regardez les enfants, par exemple. Les enfants, on les voit, même s'ils sont baptisés, on les voit souvent, c'est pour ça qu'il faut les éduquer, rectifier ces mauvaises tendances. Mais les enfants, dès qu'on voit qu'il y a un gâteau, hop, on va s'emparer du gâteau. Non, il faut attendre, déjà qu'on ait l'autorisation, et puis attendre, on peut peut-être donner à quelqu'un, un enfant qui est plus sage, plus pauvre, plus, etc., en fonction de ce que veut la maman. Les enfants ont tendance spontanément à se préférer eux-mêmes et à s'approprier ce qu'il y a de meilleur. C'est une tendance de la nature humaine. Et les adultes, en réalité, ne font pas mieux, et la seule chose qui les rend différents des enfants, c'est qu'ils sont beaucoup plus cruels, qu'ils sont beaucoup plus ambitieux, et que là où l'enfant, spécialement l'enfant baptisé, peut se ranger, disons, à la discipline qu'on lui impose, l'homme adulte, eh bien, lui, attendra la bonne occasion pour se venger de cette discipline qu'on a prétendu lui imposer. Donc, vous voyez, la nature corrompue nous porte à nous préférer nous-mêmes et à nous approprier ce qu'il y a de meilleur. On appelle ça l'instinct de survie. C'est ce que nous disent les naturalistes, c'est l'instinct de survie, c'est pour cela que c'est la loi de la jungle, etc. Mais cette idée vient d'une certaine idée du monde qui plonge ses racines dans la pensée de Darwin, qui est une pensée complètement fausse. Ça vient d'une certaine idée du monde, le monde comme, c'est pas pour rien d'ailleurs que Nietzsche a dédicacé, enfin, comment dire, a dédicacé certains de ses livres à Darwin. C'est le monde est un grand champ de lutte. C'est pour ça que les marxistes étaient très darwinistes aussi. C'est-à-dire que le monde et la vie est une lutte. C'est la lutte pour le plus, c'est une compétition pour le plus fort. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'un certain aspect n'est pas vrai, spécialement après la chute. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on ne constate pas certaines choses sur lesquelles, disons, qui servent d'alibi à ces fausses visions des choses. Mais il se trouve que c'est une idée fausse, parce que en réalité, l'homme est avant tout, comme dit Aristote à juste titre, un être social, sociable et social. C'est-à-dire que avant qu'il y ait compétition entre les hommes, il y a solidarité entre les hommes. On ne va pas faire une doctrine politique ici, c'est juste pour dire. Vous voyez, on pourrait s'imaginer que l'instinct de survie justifie le fait qu'on marche sur la tête des autres, mais en réalité, quand on marche sur la tête des autres, on va contre la nature humaine dans sa généralité. Bon, passons rapidement, ce n'est pas un cours de politologie. C'est encore la religion qui nous donne la meilleure explication de ce phénomène, évidemment, puisque la religion n'est autre que la parole même de Dieu. Elle nous dit que si nous justifions, si nous nous préférons nous-mêmes et que nous voulons nous approprier ce qu'il y a de meilleur, c'est que nous sommes orgueilleux. Et ce phénomène de l'orgueil est quelque chose qui vient de la dénaturation de la nature humaine suite à la chute au péché originel. La règle que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas susceptible d'être laïcisée. Vous voyez, souvent, il y a des gens qui, même, qui se prétendent catholiques, avec plusieurs guillemets, et qui disent, mais même si vous n'êtes pas catholique, regardez, reconnaissez que le catholicisme est une belle doctrine, que la doctrine du Christ nous aide à mieux vivre d'une façon sociale. Non, 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 c'est faux. La doctrine du Christ donne la vie à ceux qui, invités aux noces, vivent comme il faut vivre lorsqu'on est invité aux noces. Tous les autres, ils vont en enfer. Et même si ils arrivent à vivre selon la sagesse humaine, ce que je leur souhaite, parce que je ne souhaite pas le mal des gens, mais ils auraient mieux fait de suivre la sagesse, je ne sais pas moi, d'Épictète, d'Aristote, je ne dis pas de Nietzsche parce que tout ça se termine dans le satanisme, mais disons que des philosophes raisonnables, de Kant, par exemple. Et ça les aidera à vivre dans leur monde de pourceaux et de chiens, en dehors de l'Église, en dehors du Christ. Bien sûr que ça les aidera, mais la morale du Christ n'est pas laïcisable. Et la morale moderne n'est pas la morale du Christ laïcisé. Il est complètement insensé, celui qui a dit que le monde moderne était rempli d'idées chrétiennes devenues folles. C'est lui qui est fou. C'est lui qui est fou. C'est faux. Il y a dans le monde moderne, au mieux, des parodies. Des parodies sataniques, ce ne sont pas des idées devenues folles. La parodie n'est pas une idée devenue folle. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais revenons à notre sujet. Nous sommes donc nativement, malheureusement, orgueilleux à cause de la chute. Et la règle que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ, n'étant pas la sagesse humaine, parce que la sagesse humaine, je vous fais remarquer que sous un certain rapport, elle préfère ce qu'on appelle les winners, elle préfère les requins. Vous voyez la sagesse humaine, donc elle va pousser les gens à chercher le meilleur pour eux-mêmes. Bon. Donc, la sagesse humaine n'étant pas du tout concernée ici, mais c'est la sagesse divine qui est une folie pour l'homme même, il se trouve que les noces, c'est le royaume de Dieu. Et donc, par conséquent, la morale du Christ ne concernant que le royaume de Dieu, tout le reste n'étant que le royaume du diable, qui n'est que chaos et destruction, les noces étant le royaume de Dieu, les places des invités aux noces représentent donc les divers états de vie chrétienne. Donc, relisons ce début de parabole en donnant la clé. Quand vous serez invité à des noces, c'est-à-dire quand vous devenez chrétien, quand vous vous êtes translaté du royaume des ténèbres à l'admirable lumière du Christ, lorsque vous passez de l'état de chien et de pourceau et d'enfant du diable à l'état d'héritier, de cohéritier de Dieu et de cohéritier du Christ, lorsque le baptême fait de vous non plus un enfant du diable, mais commence par faire de vous un laïc, c'est-à-dire un être sanctifié, un être purifié, et ensuite d'autres choses, et si Dieu veut, ne vous mettez pas à la première place. Donc quand vous devenez chrétien, ne vous mettez pas à la première place. Combien de gens qui se convertissent, avec des guillemets, enfin qui s'imaginent se convertir et qui, très rapidement, sans qu'on leur ait rien demandé, se mettent à leur première place. Les premières places, c'est essentiellement les places d'enseignants. Très rapidement, ils viennent du n'importe quoi, ils viennent des ralliés, ils viennent des modernistes, ils viennent des... Comme ça, ils se mettent à leur première place sans passer par l'ordre des choses, sans commencer par l'humilité, sans commencer par le commencement, c'est-à-dire l'abjuration, la pénitence, éventuellement, après l'insertion, voyez, les responsabilités. Quand vous serez invité à des noces, quand vous rentrez dans le royaume de Dieu, quand vous êtes intégré dans le royaume de Dieu par la grâce de Dieu, par la porte qu'est le baptême, ne vous mettez pas à la première place. De peur que vous n'ayez la honte d'être mis à la dernière place. Comment éviter cette honte? Eh bien, mes très chers frères, il ne s'agit pas simplement de chercher les premières places et de dire « j'y suis, mais en fait, quelqu'un de plus compétent devrait y être ». Ça, c'est se payer la tête du monde que de dire ça. Ne cherchez pas la première place, c'est-à-dire... positivement, pratiquer l'humilité. Qu'est-ce que l'humilité? Définition de l'humilité, pratique, savoir se tenir à sa place dans la gratitude. C'est-à-dire, non seulement savoir se tenir à sa place, là, d'une certaine manière, l'ambitieux qui n'a pas encore les ouvertures nécessaires pour gravir les échelons, reste à sa place, mais il trépigne. L'humilité consiste à savoir se tenir à sa place, non pas simplement à se tenir à sa place, mais à savoir se tenir à sa place dans la gratitude. C'est-à-dire dans la gratitude. C'est-à-dire non seulement se tenir à sa place, savoir qu'il faut se tenir à sa place, ce qui n'est pas la même chose, mais aussi savoir se tenir à sa place dans la gratitude. L'humilité, qu'est-ce que c'est? Alors ça fait frémir. Je vois déjà les anti-libéraux qui commencent à dire « Oui, mais l'humilité, qu'est-ce que c'est? Si on est humble, vraiment, on ne fait rien, on ne fait plus rien, il faut laisser les modernistes marcher sur nous, il faut se laisser traîner et traiter comme un paillasson, etc. » C'est pour ça que vous voulez prendre la figure des modernistes pour des paillassons. Vous leur recommandez donc l'humilité que vous ne voulez pas pour vous-même. Bon, allez, soyons sérieux, mes très chers frères. L'humilité, qu'est-ce que l'humilité? C'est savoir se tenir à sa place dans la gratitude. Elle est, nous disent les meilleurs auteurs, elle est entre deux extrêmes. Entre l'orgueil du démon et la stupidité de la bête brute. L'orgueil du démon, car tout orgueil est démoniaque, consiste à s'estimer au-dessus des autres. Vous voyez, on peut s'imaginer être au-dessus des autres, au-dessus des impies, voyez, c'est-à-dire qu'on peut s'enorgueillir d'être chrétien, de ne pas être une raclure de gauchistes, mécréants, dégénérés, pourris, voyez, bon, ça, mettons que quand on est à ce niveau-là, c'est qu'on est dans un niveau mental très puéril. On est un enfant, malheureusement, on n'est pas un vrai enfant, on est plutôt un demeuré en réalité. Enfin, mettons que ça soit une forme puérile d'orgueil. De vouloir s'estimer au-dessus des autres. Mais il y a aussi, et d'ailleurs l'un n'exclut pas l'autre, il y a aussi une façon de s'estimer au-dessus des autres en voulant enseigner les autres, en voulant les reprendre, voyez, en voulant les exhorter, et bien sûr en ne voulant pas soi-même ni être enseigné, ni être repris, ni être exhorté. Donc voyez, il y en a pour tous les goûts. Que vous vous estimiez au-dessus des autres pour leur faire du bien, ou que vous vous estimiez au-dessus des autres parce que ce sont des idiots, c'est de l'orgueil, et donc vous êtes le proche parent du démon. Voilà l'excès duquel l'orgueil doit se tenir très éloigné. On ne peut pas savoir se tenir à sa place dans la gratitude si l'on est orgueilleux. Mais il faut aussi savoir qu'il y a une autre façon une autre façon de se comporter qui est antithétique, mais qui n'est pas meilleure. C'est-à-dire quand on croit être humble en étant mauvais dans son état. Vous voyez, imaginez un prêtre, prenons l'exemple d'un prêtre, bon c'est un exemple factice parce que je ne pense pas qu'on en arrive à là, mais disons qu'on ne sait jamais. Mettons qu'on est un prêtre, il est un prêtre, et que par humilité, il aille dire toujours aux gens, vous savez, moi je sais à peine dire la messe, je sais à peine bafouiller le latin, vous savez, notre Seigneur nous demande l'humilité, donc moi je ne sais pas, je ne sais rien faire, je sais. Comment vous avez réussi à être prêtre si vous bafouillez le latin et si vous ne devenez pas capable de dire la messe correctement? Quand je dis la messe, c'est tout. Hein. Ce n'est pas de l'humilité. C'est de l'incurie, c'est la stupidité de la bête brute. Alors évidemment, il est très loin du démon, mais enfin, comme les extrêmes se touchent, le prêtre, exemple factice évidemment, mais le prêtre qui ne saurait pas distribuer les sacrements, ne serait pas simplement humble parce qu'il ne veut pas avoir l'air d'un prêtre qui sait distribuer les sacrements comme il faut, selon les règles de l'art. Non, c'est un criminel, c'est quelqu'un qui, lorsqu'on lui demande un sacrement dont on a besoin, imaginez un mourant qui aurait besoin des derniers sacrements, il n'a aucune idée de comment on lui donne. Et c'est de la folie. Donc vous voyez, il rejoint le démon par sa nocivité, sinon par son orgueil. Donc il y a bien sûr d'un côté l'orgueil qu'il faut éviter, parce que si quelqu'un croit être quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'abuse lui-même, dit saint Paul, c'est vrai. Cet orgueil-là cherche à nous enfler afin de recevoir une récompense, voyez, et puis il y a une façon orgueilleuse d'être humble aussi. C'est quand on fait de grandes objurgations, quand on fait de grands renoncements publics devant tout le monde, etc., qu'on ne veut absolument pas, qu'on se fait traîner sur la scène pour pouvoir être applaudi, qu'on ne veut pas, etc. C'est pas de l'humilité là, c'est une forme d'orgueil. Les auteurs nous le disent très facilement. Mais il y a aussi, comme nous le disions, une fausse humilité qui consiste à être mauvais dans son état. Imaginez un père qui ne veille pas à la moralité de sa famille. Une mère qui ignore comment accomplir les tâches qui lui incombent. Un roi qui, par humilité, ne rendrait pas la justice à ses sujets. Parce qu'il ne voudrait pas s'immiscer dans les tribunaux. Mais comment les tribunaux rendent la justice en son nom? Il faut bien qu'il soit le juste par excellence. Voyez, croire être humble en étant mauvais dans son état, ce n'est pas de l'humilité. L'humilité doit se tenir donc éloignée des formes démoniaques de l'orgueil, enfin de l'orgueil qui est toujours démoniaque, et des formes, si j'ose dire, démoniaques de l'humilité qui consistent à être mauvais dans son état. L'humilité, disions-nous, est un remède, et le remède à la difformité causée par la chute. L'humilité s'entretient et se pratique par, nous allons le voir dans un instant, par la défiance envers le vieil homme, par la mortification, par la discipline et par le bon usage des humiliations. Si notre Seigneur, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais nous passons rapidement, si notre Seigneur doit être un exemple d'humilité, ce n'est pas tellement par le fait qu'il s'est anéanti lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire pour un être humain? On ne peut pas s'anéantir, on ne va pas devenir moins que nous sommes, puisque nous sommes déjà rien. Mais il a fait bon usage des humiliations. Oui, il a été traité de démoniaque, il a été traité de possédé, il l'a réfuté, mais avec humilité. Il a été traité comme un coupable. Il n'a pas récusé le fait qu'il était roi, puisque lorsque Pilate lui a demandé, vous êtes donc roi, il a dit, tu l'as dit, je le suis. Je suis roi. Maintenant, il s'est laissé traiter comme un coupable. Il s'est laissé flageller, il s'est laissé cracher dessus, il s'est, comme vous le savez, dans la Passion, on s'est même moqué de son caractère prophétique en le soufflettant et en lui disant, devine, qui t'a souffleté. Ce sont des choses horribles. Ce ne sont pas simplement des choses horribles qui doivent nous faire enrager contre ceux qui les lui ont fait ces choses. Ce sont des exemples de bon usage des humiliations. On peut être humilié sans être humble ou sans en faire bon usage. Il faut faire bon usage des humiliations pour guérir la boursouflure de notre orgueil. Et que personne ne vienne de dire, oui, mais il me semble que c'est Dieu qui doit me guérir de mon orgueil. Je lui demande justement, troisième mystère douloureux, la guérison de notre orgueil, la mortification de notre orgueil. Oui, mais regardez comment notre Seigneur nous donne les moyens d'être humiliés. Le couronnement d'épines. Vous voyez, le bon usage des humiliations est un effet de la grâce de Dieu qui nous guérit de la boursouflure de l'orgueil. Quand, nous dit notre Seigneur, vous serez invités à des noces, ne vous mettez pas à la première place. Car il est écrit, l'orgueil précède la chute. Il est encore écrit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Et notre Seigneur termine cet évangile en disant, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera exalté. Quelle est cette dernière place que nous devons rechercher? Cette dernière place que nous devons rechercher n'est pas une place artificielle que nous attribuons pour nous faire mousser, comme on dit, faire l'âne pour avoir du son. La dernière place, c'est la place qui nous est assignée par la Providence. La dernière place, qu'est-ce que c'est? Ça peut être la place d'évêque dans l'Église, ça peut être la place de prêtre, ça peut être la place de père de famille, ça peut être la place de mère de famille, ça peut être la place de religieux, ça peut être la place de tous les états de vie chrétienne représentent et constituent cette dernière place. Vous allez dire, mais alors qu'est-ce que c'est la première place? La première place, c'est quand nous sommes, paradoxalement, nous qui sommes inutiles, utiles à Dieu. Et c'est une place qui ne se ravit pas, c'est une place où on arrive insensiblement sans s'en rendre compte. Et on y arrive d'autant plus rapidement, si j'ose dire, même si ce n'est pas une question de temps, on y arrive d'autant plus rapidement que l'on ne cherche pas à y arriver. Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera exalté. Il ne dit, notre Seigneur ne dit pas quiconque s'abaisse sera, il arrivera un temps où ceux qui l'ont fait souffrir en prenant bien plein les dents, etc. Non, il sera exalté dans l'au-delà. Vous allez dire, ça fait loin, c'est dans longtemps. Et entre-temps, j'aurais vécu toute une vie d'humilité. Voyez-le autrement. Vous aurez vécu une vie, enfin, j'essaye de m'adresser à vous, mais si vous dites, j'aurais vécu toute une vie d'humilité, d'humiliation, s'il faut se contenter de la récompense dans l'autre vie, bon, je pense que malheureusement, vous êtes très mal disposé pour entendre ce que je vais dire. Disons, je vais dire quelque chose à la même personne, mais qui serait bien disposée. Vous n'aurez pas vécu toute une vie d'humiliation qui attendra une hypothétique récompense dans l'au-delà. Vous aurez été exalté à la mesure où vous serez abaissé. Mais nous n'ayons pas l'instrument pour mesurer le degré d'exaltation, nous ne pouvons que mesurer le degré d'humiliation. Lorsque notre Seigneur a été couronné d'épines, lorsqu'il a été flagellé, lorsqu'il a été crucifié, je ne parle pas de son incarnation, mais simplement de sa passion, nous savons très bien que tout ceci était en creux l'image de sa glorification. Imaginez que Pilate, imaginez qu'Hérode, le jour de sa naissance, aurait voulu l'honorer. Mais qu'est-ce qu'il aurait fait? Une surprise partie, une garden partie, pardon, dans les palais hérodiens de Jérusalem. Mais c'est très beau. Alors je ne dis pas que les réceptions royales ne sont pas belles, mais tout ceci est bien peu pour un Dieu fait homme. Et si Pilate avait voulu honorer notre Seigneur, il aurait invité au palais du gouverneur, il lui aurait fait servir des meilleurs vins, les meilleures viandes de Judée. Et après quoi? Après un bon repas, c'est fini. Même s'il avait donné une médaille, qu'est-ce que c'est dérisoire. Notre Seigneur a été reconnu roi universel lorsqu'il a été couronné par des soldats romains avec une couronne d'épines. Vous allez dire, mais c'est un peu trop paradoxal. Ah bon? Et le roi Saint-Louis, lorsqu'il a fait construire cette magnifique chapelle, qu'on appelle la Sainte Chapelle, comme reliquaire géant de la Sainte Épée, de la Sainte Couronne, il avait compris. Il savait, enfin il avait compris, c'est pas que lui, mais il savait que cette couronne était en quelque sorte en négatif ou en creux ce que la couronne royale posée par le Père sur la tête du Fils est en absolu et en vrai. Nous ne pouvons savoir, nous ne pouvons connaître quand ou comment nous sommes exaltés. Dieu seul le sait, mais nous pouvons savoir si nous sommes abaissés ou si nous ne sommes pas abaissés. S'il nous semble que les humiliations sont trop difficiles à supporter, vous voyez, il y a des gens qui disent les humiliations, il faut quand même, quand un père de famille est humilié devant ses enfants, il faut qu'il réponde, parce que sinon il va. Oui, je ne dis pas qu'il ne faut pas assumer la dignité de sa charge. Évidemment, si on manque de respect à une mère de famille devant sous les yeux de son époux, il faut que l'époux la défende. Il faut que l'époux la défende. Ce n'est pas forcément dire toujours qu'il doit casser la figure à celui qui manque de respect, mais ça veut dire qu'il doit, il doit être là d'une façon qui fasse que l'épouse se sente et se sache protégée par lui, protégée et honorée par lui. Il ne s'agit pas de cela, mais voyez, le problème, c'est que la doctrine de l'humilité nous fait tellement horreur que nous prenons toujours des cas qui ne relèvent pas de la doctrine de l'humilité, mais qui de la doctrine de l'État, pour en quelque sorte essayer de court-circuiter, voire de saper, voire éventuellement d'annihiler la doctrine de l'humilité, faire bon usage des humiliations. Il faut consulter aussi. il y a tellement, je ne vais pas donner d'exemple parce que les exemples sont tellement variés qu'il faut consulter son directeur, son professeur pour savoir ce qui est une humiliation qu'on doit subir et dont on doit tirer bon usage, et une humiliation qui n'en est pas une en réalité, mais qui est un affront à la dignité dont nous sommes revêtus, etc. Bon. Ce n'est ni la crainte d'être humilié devant les hommes, ni le soin d'être relevé devant eux, nous dit un auteur, qui doit nous faire éviter la recherche des premières places. Mais la connaissance de notre néant, l'amour de l'ordre, l'esprit de pénitence, la haine de notre orgueil, un vrai sentiment d'humilité, c'est-à-dire d'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ, le désir de nous conformer à notre Seigneur et d'obéir à son évangile. C'est cela qui nous motive à ne pas chercher les premières places, sachant que la fameuse dernière place n'est autre que, vous l'avez compris, je l'espère, mes très chers frères, n'est autre que l'état dans lequel la Providence nous a placés. Nous ne pouvons accéder aux premières places que dans la mesure où nous avérons véritablement humbles dans notre à la dernière place, c'est-à-dire dans notre état. Si vous avez compris cela, vous avez tout compris. Et un autre auteur de nous dire, ceux-là ont plus de force qui ont plus d'humilité. Bienheureux celui qui comprend. Et c'est pour cela que pour acquérir cette humilité, l'Église nous met sous les yeux une parole d'un psaume dans l'offertoire. « Seigneur, jetez les yeux vers moi pour me secourir, qu'ils soient humiliés et confondus ceux qui cherchent à m'ôter la vie. Seigneur, jetez les yeux vers moi pour me secourir. » Vous voyez que notre Seigneur ne nous abandonne jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne laissera pas notre ennemi nous réduire en poussière et nous tenir à sa merci. Alors, mes très chers frères, nous revenons à cette parole, cette verset alléluiatique par laquelle nous avons commencé le sermon. Comment sceller, en quelque sorte, l'humilité, cette humilité qui vient, je le dis rapidement, donc de la connaissance de notre néant, de l'amour de l'ordre, de l'esprit de pénitence, de la haine, de l'orgueil, d'un désir de conformité à notre Seigneur Jésus-Christ et d'obéissance à son évangile. Comment mettre un sceau? Comment mettre un lien à tout cela, à ce faisceau, disons, de bons sentiments, en quoi consiste l'humilité? Comment mettre un sceau à cette humilité? On ne peut mettre un sceau à cette humilité, mes très chers frères, si l'on ne chante pas au Seigneur le cantique qui consiste à le louer, lui, pour le simple fait qu'il est ce qu'il est et qu'il a fait ce qu'il a fait pour nous. Si l'on cherche à être humble et qu'en même temps, en amont et tout le temps, on ne glorifie pas Dieu et qu'on ne loue pas Dieu pour sa grandeur, alors on ne sera jamais humble. Pourquoi? Parce que nous serons toujours, d'une manière ou d'une autre, les concurrents de Dieu. Mais quand nous cherchons à louer Dieu pour sa grandeur et à chanter un cantique nouveau au Seigneur à cause des prodiges qu'il a opérés et à faire état des grandes œuvres et de la geste de Dieu, alors, véritablement, mes très chers frères, nous mettons un sceau à notre humilité et l'humilité devient très facile parce qu'il n'est pas difficile d'être humble lorsque l'on est membre de ce Dieu, du corps mystique, du Fils de ce Dieu qui est si glorieux. Mais si nous ne sommes pas membres de ce corps mystique, alors, et que nous croyons l'être par ailleurs, alors véritablement nous serons toujours en concurrence avec Dieu et nous ne voudrons pas tellement glorifier Dieu que nous glorifier lui-même, nous-mêmes en le glorifiant. Alors mes très chers frères, chantez au Seigneur un cantique nouveau, car il a opéré des prodiges. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci.